chien noir des 70s, Led Zeppelin. Feuilleton en 15 épisodes. 9, l'Amérique enfin. Et Wall Lotta Love. Octobre 1968. Le premier disque est enregistré. Peter Grant embarque les bandes et s'envole pour New York. Jimmy Page aux États-Unis est une référence. Les guitaristes anglais, on les pèse en dollars. Jimmy Page à New York, on le respecte bien mieux qu'à Londres. Peter Grant s'adresse directement à Ahmet Ertegun, le président des disques Atlantique, qui produit Cream, Bee Gees, Arthur Brown, mais aussi The Marbles ou The Magic Lantern, oublié depuis lors. Et lui dit ce qu'on pourrait inventer avec Led Zeppelin. Ou pourquoi et comment on peut faire avec Led Zeppelin quelque chose qui n'a jamais été tenté auparavant, commercialement parlant. Il passe quelques bribes du disque, ou pas du tout, on ne sait pas. Mais on signe un contrat. Et personne avant Led Zeppelin n'avait eu contrat si royal. Il suffira de dire le montant, et tout le monde prendra dès lors Led Zeppelin au sérieux, même avec deux inconnus de Birmingham dedans, et sans les avoir jamais entendus. C'est la rumeur sur cette transaction qui sera désormais sa carte de visite à Peter Grant, qui a pris une suite au Plaza pour vendre Led Zeppelin aux tourneurs. Avec Page, ils ont élaboré une stratégie, pas très compliquée. Peu importe le prestige des villes, peu importe le prestige des salles, peu importe le groupe vedette dont on fera la première partie, mais jouer, mais tourner, se mettre dans le fromage. Page ne les lâche pas, on travaille, tous les jours. On a joué le 18 octobre au Marquis, toujours on revient au Marquis, mais c'est sous le nom des Yardbirds. Écoute polie, article méfiant. Le coup de la reformation, on n'y croit plus. Pour se roder avant l'Amérique, on part en province. On joue pour 150 livres à Canterbury, à Sheffield, à Bath, à Richmond. Maintenant on s'appelle Led Zeppelin, anciennement Yardbirds, c'est un progrès. Page et Jones ont des années de studio dans les doigts. Et John Paul Jones arrive aux répétitions comme au bureau. Jones, comme Page, savent la musique, en pratiquent toutes les astuces. Eux deux, les Brummies, les deux de Birmingham, 5 ans de moins que leur guitariste, se sentent un peu orphelins quand ils se retrouvent seuls, après les répétitions, à prendre une bière de plus, tandis que Page reste pour bricoler encore les bandes. Pas de l'angoisse complètement, mais l'impression comme de conduire trop vite. Si on se ramasse, ça fait mal. Alors on commande une nouvelle bière. Ils se disent aussi que tout cela peut-être vient tard. L'automne voit apparaître quelques albums poids lourds, des jalons définitifs de l'histoire du rock. Le double album blanc des Beatles sort en octobre, et Beggar's Band Poet des Rolling Stones en novembre. Revolution No. 9 dans le premier, Street Fighting Man dans le second, ce n'est pas rien. Et eux, ils n'ont pour répondre que ces éternels thèmes du blues. Si tu me quittes, tu m'as secoué, you shook me, et dans le genre. And happiness is what everybody needs so bad. Well, let me tell you the answer lies with you. Nobody else. The wind takes me, set away in the day, and high in the sky. And the wind won't blow, really should blow. Alors il y a des tiraillements. Parce qu'ils n'ont jamais travaillé si dur et qu'on demande de lui un professionnalisme auquel il n'a pas été formé, John Bonham, un soir, fait une réflexion à Jimmy Page. Aussitôt, c'est Grant qui s'en mêle. « Behave yourself, Bonham. » Ni surnom, ni prénom. Juste le nom de famille. Du genre, « C'est comme ça, Bonham. Tu rentres chez toi vite fait. » La musique était si intense que tout devenait intense. Bonzo et moi, on était vraiment plus basiques à tous égards, dira Robert Plant. À ce stade, j'étais vraiment directif dans l'organisation de tout ça, commente lui Jimmy Page. Page s'habille de dentelle et de velours vert ou pourpre, c'est la mode. Plant, plus côté hippie, de tunique apparemment. Et Bonham offre à sa mère, dans la prospérité offerte par Peter Grant, de nouveaux rideaux de cuisine. Mais lui demande qu'avec les anciens, qui sont verts avec des fleurs roses, elle lui taille un caftan. Il le portera longtemps et fièrement, qui associe la mode et sa maman. Les fleurs psychédéliques, les manteaux taillés dans du rideau de cuisine, c'est bien de l'époque. Voilà en tout cas comment on atterrit à New York le 20 décembre 1968. Qui les acceptent en première partie sont Iron Butterfly et Vanilla Fudge, des adeptes de la musique lourde et qui, bien sûr, dépendent aussi des disques atlantiques. Une Haggadah Davida est le tube qui a propulsé Iron Butterfly sur le devant de la scène. L'alliance du lourd et du léger, le fer et le papillon, ça a compté pour choisir le nom Led Zeppelin. Dans Une Haggadah Davida, il y a un solo de batterie comme celui que fait Bonham. Là aussi, parenté. Leurs copains, ce sera plutôt les musiciens de Vanilla Fudge, dont le batteur s'appelle Carmine Pice. Pour Bonzo, ce sera un mentor, un ami. Le fils du charpentier de Redditch rencontre un vrai frère d'armes. Ils obtiendront ensemble d'être sponsorisés par Ludwig, la marque de batterie. Feront fabriquer à leur usage unique des grosses caisses encore plus gros diamètre, des pédales à ressorts renforcés et joueront souvent à quatre mains.
I'd like to introduce Led Zeppelin to you.
Et puis dans les hôtels aussi, on sera ensemble. C'est l'université du rock'n'roll. Et puis on s'amuse, on boit, on casse, en gros, on vit.
On drums, John Bonham. Lead guitar, Jimmy Page. And myself, Robert Plant.
C'est que Richard Cole a complété l'équipe. Arrêt sur Richard Cole, un Anglais pur sang, ancien commando, qui est venu au spectacle parce qu'il était monteur d'échafaudage, mais s'est fait une spécialité des tournées de groupes anglais en Amérique. Les hôtels, les voitures, le matériel, la sécurité et les billets, les restaurants, mais aussi les amusements, les filles, les poudres, Richard Cole s'occupe de tout. Les deux dernières années, il était avec les Who, bientôt à leur service exclusif. Mais même pour les Who, ça devenait trop.
To the crunch.
Peter Grant l'embauche pour Led Zeppelin. À ses petits nouveaux, trop sages, Cole veut montrer qui il est, ce qu'il sait faire. Les filles, la cocaïne, tout ce que vous voulez, les gars. Toute la légende noire de Led Zeppelin, c'est Richard Cole. Souvent d'ailleurs Richard Cole tout seul, ou Richard Cole avec Bonzo. On ne prête qu'aux riches. En somme, leur âme damnée, ou le renard de Pinocchio. Grant n'a pas le choix, c'est sportif une tournée. Un jour qu'on arrive avec une heure de retard pour le concert, on les sort de la limousine avec des colts sous la figure. C'est la mafia qui organisait le concert. Depuis fin décembre, Seattle, Vancouver, c'est pas bronzette et palmiers. L'autoroute est bouclée à cause d'une tempête de neige. Alors Cole loue un 4x4 et convoie le groupe par les petites routes, sans rien y voir. Plant, Page et Bonham, la trouille. Le 26 décembre, à Denver, le 27, à Seattle, le 28, à Vancouver, la tempête de neige, le 30 et le 31 à Portland, c'est leur baptême. Et la découverte de Los Angeles pour souhaiter la bonne année par téléphone aux épouses et mamans restées à Londres et Birmingham. Los Angeles, qui pour 10 ans va devenir comme leur résidence secondaire, la ville de tous les rêves, tous les excès. On joue au Whiskey Club les 2, 3, 4 et 5, au Fillmore de San Francisco les 9, 10, 11 et 12, et puis la route, encore la route. Iowa le 15, 3 concerts à Détroit, 4 à Boston, enfin New York les 31 janvier, 1er février, puis Toronto, encore New York, Chicago, Memphis et Miami dans la même semaine, avant retour. Baptême du feu pour groupe inconnu, toujours pas de disque, mais la confiance qui monte, et la scène en tout cas, un métier qui rentre. Plant et Bonham reviennent à Kidderminster fin janvier et se rendent la vie plus confortable. Jason, le fils de Bonham, a 2 ans et Maureen Plant aussi a accouché. On ne change pas d'appartement, mais on s'achète une machine à laver, la télévision. Pas de luxe. Grant a bien insisté en leur montrant les comptes. La publicité, les billets d'avion, location de matériel, salaire de Cole et des chauffeurs. Les résultats, les gars, c'est pour plus tard. Quand on revient aux États-Unis début mars, il y a le disque. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que la deuxième tournée qui commence va durer en fait près de 15 mois. 4 jours à San Francisco pour commencer, New York 5 semaines plus tard. Entre-temps, on aura joué quasiment tous les jours. Sur les affiches, on est encore en première partie des copains de Vanilla Fudge ou d'Iron Butterfly. Mais le 31 mai, jouer après Led Zeppelin, qui fait plus d'1h30 au lieu des 3/4 d'heure prévus, c'est quasi impossible. Alors le lendemain, Iron Butterfly choisit de faire la première partie et Led Zeppelin jouera 2 heures d'affilée. C'est ce soir-là, le 31 mai 1969, à New York, le nouveau basculement et peut-être la vraie naissance de Led Zeppelin, configuration définitive. Et aussi parce qu'on a joué pour la première fois Whole Lotta Love. Dans les hôtels, promène avec lui une valise remplie de cassettes. Chaque idée qu'il trouve à la guitare, chaque riff ou motif rythmique, même s'il dure 40 secondes, il l'enregistre et le stocke. Une fois, il en perdra 2 valises de cassettes. Quand on s'attelle à un morceau, il a des réserves prêtes de solo, de contrepoint, de position dans le manche. Et dans les heures vides des hôtels, on joue, on enregistre. Le deuxième disque de Led Zeppelin, même Jimmy Page ne pourra jamais répondre où et comment il s'est composé. La balade Rumble On, peut-être Toronto, parce qu'on avait réservé 2 nuits de studio. Mais on a fait la même chose à Chicago. Et de toute façon, tous ces morceaux, on les a repris à Memphis en partant de zéro. Et quand le groupe profite d'une pause, Page prend seul l'avion avec les bandes, s'enferme à New York, comme il aime, pour rajouter des pistes, refaire des mixages. Led Zeppelin 2, puisque ce sera le seul titre du second album, semble ainsi tout droit tiré de l'énergie des concerts. Comme pour le premier album, l'idée de Grant, c'est de refuser les 45 tours. On veut écouter Led Zeppelin, qu'on écoute tout le disque. Un de nos caprices, dira Plant, mais un caprice raisonné, qui fait passer l'unité globale du disque avant le tube. Un refus apparent des facilités du commerce, mais qui se révèle commercialement encore plus profitable. À chaque concert, on reprend les longues improvisations de Dazed and Confused, mais c'est un morceau qu'ils ont trouvé tout fait sur leur route. All Lotta Love est conçu pour prendre la suite, un tour de force. Le germe, You Need Me, encore un vieux Willie Dixon. Mais des riffs épais de guitare, un solo de batterie, la voix traitée comme matière. Et comme dans Dazed and Confused, l'archet de violon sur la guitare électrique était l'attraction visuelle, Page installe sur scène cette antenne reliée à un générateur d'ondes qu'on appelle le térémine. Un geste de la main à l'horizontale change le volume, un geste de la main à la verticale modifie la fréquence. Alors, ce sera avec un étrange solo, la musique faite avec des gestes de sorcier, que Led Zeppelin va défier pendant 10 ans les groupes concurrents. Miraculeux Led Zeppelin 2. Leur premier disque en est déjà à 680 000 exemplaires. Le nouveau atteindra le million en moins de 3 mois. Et les disques atlantiques inonderont l'Amérique d'une version abrégée de All Lotta Love en 45 tours sans leur demander leur avis. Ce qui est gagné, c'est qu'on est désormais tout en haut de l'échelle. À un moment où, grâce à ceux qui les avaient précédés, c'est d'une échelle mondiale qu'il s'agit. Et c'est allé si vite, en moins de 5 mois.
Kept all the money that we'd already spent, we would have been millionaires a long, long, long time ago.
Était 69, la légende noire.
I'm going down slow.
Chien noir des 70s, Led Zeppelin, groupe de réalisation Claude Guerre, Jean-François Néolier, Bruno Mourlan, Peyré Legras, texte écrit et dit par François Bon.